avec nos questions un peu.
Oui, parce que pandémie, c'est très pris.
Oui, 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 combien de temps on a
presque, papa, une demi-heure. Il a dit qu'à 11h, tu nous avais dit qu'à 11h,
voilà,
on pouvait partir.
Une demi-heure, 45 minutes.
On veut respecter.
D'abord, on a peut-être une question un peu générale sur ce que vous pensez de la situation en Grèce et aussi peut-être, pourquoi pas, de la position de la France.
La situation générale économique.
Alors, sociologique, par rapport à la crise, donc socio-économique, et puis peut-être un autre point sur la situation vis-à-vis de la crise migratoire.
Mm-hmm. Situation économique, évidemment, c'était 5-6 années très dures, des récessions, surtout pendant les 2 ou 3 premières années, c'était la récession était incroyable. Contre toutes les prédictions en fait, des organismes internationaux. Par exemple, comment s'appelle c'est un organisme, l'FMI, voilà, prévoyait une récession de 3% ou 2%, alors qu'on a eu une fois 4,5, l'autre fois 7. C'était toujours à côté de la plaque. Ce qui fait au total une récession d'à peu près 25%. Donc l'année passée, on prévoyait une légère reprise, mais ça n'a pas marché. En fait, finalement, on a eu une petite récession de 0,2. Cette année, on avait des prédictions beaucoup plus... c'est la première année que nous avions des prédictions beaucoup plus positives. On paraît sur une croissance de 2,7 initialement, mais à raison des friction entre le gouvernement et les institutions. L'accord, au lieu d'être conclu en février ou plus tard en mars, on l'a eu en juin, ce qui a fait retarder la croissance. Et maintenant, on table sur une croissance de 1,8. Et l'année suivante, sur une croissance de 2,6.
Donc là, vous n'êtes plus en récession actuellement?
Pas actuellement. Donc c'est la meilleure année, disons. La situation cette année, beaucoup mieux en ce qui concerne la croissance. Et ça se reflète aussi à quelques indices. Par exemple, nous avons une baisse du chômage depuis 2 ans maintenant, qui est arrivée au top officiellement, parce qu'il y a à côté, en fait, on ne compte pas toujours très bien le chômage. Oui, voilà. Donc officiellement, c'était 3 ans, c'était à 27,4 à peu près, si je me souviens bien. Et maintenant, c'est beaucoup mieux d'après les ressources, les instances grecques, c'est un peu plus de 20%. D'après les FMI, c'est 21,5. Donc, on a une baisse officiellement de 6-7 points depuis 3 ans. Donc, c'est l'avantage du gouvernement qui dit tout le temps, voilà ce qu'on a fait, nous, blablabla. Donc, sur ce plan-là, ça va un peu mieux. Évidemment, ça doit beaucoup à 2 facteurs. D'abord, c'est le tourisme qui se porte très bien. Depuis 2 ans maintenant, nous bat l'un record après l'autre. Donc, l'année passée, nous y avions plus de 30 millions de touristes, 33, et cette année, un peu plus, 34, ce qui est incroyable pour un pays de la taille de la Grèce, parce qu'en France, vous avez à peu près...
85
000. Voilà, mais vous êtes à peu près 6 fois plus grand.
Mais
donc
nous,
vous comprenez.
Nous, il baisse par contre. On était à 85, 83, 82.
Et l'Espagne, c'est pareil à peu près. C'est comme la France, mais quand même, l'Espagne est à peu près 4 fois et demi plus grande que la Grèce.
Voilà, c'est ça.
La Grèce, c'est
exactement.
C'est immense. Ça fait 3 fois la population du pays.
Voilà. Donc c'est conséquent.
Évidemment, il y a un petit problème en ce qui concerne les recettes, parce qu'il y a tout ça. Le tourisme est contrôlé pour une grande part par des grosses sociétés
qui réexportent les bénéfices.
Voilà, et surtout en fait qui contrôlent tous les prix et puis qui orientent les touristes dans des lieux précis. Par exemple, il y a la fameuse société allemande TUI,
oui,
qui est plus importante, qui contrôle une bonne partie à peu près. Je ne vais pas dire les tiers du tourisme, mais à peu près quand même le quart, et qui a pas mal d'hôtels ici. Donc vous comprenez, ils ont tout, les avions, ils affrètent l'avion, et ensuite ils ont ici les hôtels, et ensuite ils ont des restaurants.
C'est une boîte allemande qui a racheté aussi, par exemple, la Nouvelle Frontière en France.
Voilà, c'est exact.
Et le Club Méditerranée et tout ça.
Le Club Med aussi a été racheté par Thuy ?
Oui, en partie.
Mais surtout récemment, Nouvelle Frontière. Parce que Nouvelle Frontière travaillait bien ici, surtout dans la région, en fait. Nous avions chaque année, en fait, je ne sais pas combien de centaines de mille, des Français venant de...
On a reçu un autobus hier. Oui, hier, c'était un...
Et il y a quelques 3-4 semaines, ils ont fait l'air, je ne sais pas qui est le patron, en fait, déclaration comme quoi ils avaient l'intention de construire encore pas mal d'hôtels, une 12, un nombre comme ça, prochainement, ce qui veut dire des gros hôtels, trois hôtels, et deux de ces hôtels seraient dans notre région, une près de chez vous et l'autre près de Kalamata. Hein. Donc ce sont des hôtels de village entier, en fait, ce sont des villes entières.
Hôtel de croisière.
Et voilà. Est-ce que le fait que notre région a très peu d'accès à l'aéroport ?
Là, c'est un problème. Comme c'est un autre problème, c'est la... comment ça s'appelle la route, comme vous avez vu, c'est...
On n'a pas trop vu parce qu'en venant d'Athènes, l'autoroute est très neuve.
Oui, toute la région maintenant, si vous allez par là, c'est magnifique, c'est récent. Moi, je vais par exemple, je viens de la région, et je me souviens, lorsque j'étais jeune, pour venir de ma ville, pour aller de ma ville à Athènes, ça faisait un peu moins de 500 km avec ma voiture... Je conduis un peu plus rapide, hein, rapidement. Ça prenait en fait 7h30, 8h. Et maintenant, c'est 4h et quelques. Vous comprenez, c'est réduit à moitié. Évidemment, il y a des péages partout. Mais...
pour aller à Athènes, 4h30.
De Yanena.
Ah, de Yanena.
Athènes, d'ici, c'est moins de 2h. Moi, je le fais deux fois par semaine à peu près. Battre à Athènes, c'est 1h45, max 2h, pas plus.
Est-ce que vous pensez que. Prochainement sera mis sur la table le projet de développement touristique par le biais de, des aéroports qui existent ici et qui sont en partie appartiennent à, à l'armée grecque, à l'aviation.
En fait, des projets les...
pour développer notre région.
La première nouvelle, c'est que maintenant, je pense qu'ils vont construire la route Paphos-Olybia. Là, c'est un projet financé par la communauté européenne et le gouvernement ici. Donc, je pense d'ici 5 ans, nous aurions en fait une nouvelle route qui sera évidemment très importante pour tout le monde.
Développement.
Parce que nous avons beaucoup d'accidents et puis l'accès est très difficile. Ensuite, c'est le gros problème des aéroports. Je ne sais pas pourquoi, en fait, les autorités locales, ils ne sont pas très, je ne vais pas dire compétentes, mais de façon pas efficace. Ce qui fait en fait qu'on n'a pas d'infrastructure dans la région, surtout aéroport. Nous, on les ressent à l'université parce qu'on essaie d'organiser des colloques importantes, qui veut dire en fait, surtout les médecins, des 500, 600 personnes, c'est impossible. Alors qu'il y a hier, par exemple, à Rhodes, à Crète, ils font des colloques immenses avec 1000 médecins en fait, parce qu'Héraclion, c'est très fort comme ville, comme aéroport, tout ça. Mais ça va un peu mis en cause de l'autoroute à Athènes-Patras, mais quand même, l'aéroport nous manque.
Oui, et donc, Araxos et Andravida ne sont pas mis immédiatement dans le projet de développement.
Non.
Vous ne pensez pas.
Andravida, c'est par contre un aéroport de l'armée.
Oui, mais Araxos aussi.
Araxos, c'est pareil.
Que... Araxos aussi.
Ah, Araxos pareil
oui.
Ah, d'accord.
Ça appartient à l'armée, à l'aviation, mais à Araxos, il y a tous les vols TUI qui... qui emmène les touristes dans le Péloponnèse par Araxos.
Parce que Andravida, comme je ne savais pas pour Araxos, mais Andravida, je sais qu'on ne peut pas avoir accès, ou tout le monde ne peut pas avoir accès, parce que c'est la base militaire quand
c'est
même.
C'est une base militaire qui appartient à l'OTAN. En
voilà.
Fait, tout le temps, nous avons des Français, des Américains, souvent des Israéliens.
Ah, oui.
Cette année, nous avions, je ne sais pas, 4-5 fois des Israéliens,
oui, c'est
et des pilotes. C'est la première fois qu'on a vu de la région des pilotes israéliens, un peu moins de regarder comme ça, en fait.
Ouais. Avec une
parce
grande...
sont,
des bodyguards.
Des Rambo.
Ouais, à côté de
d'accord.
Et donc, voilà. Kalamata...
Le pilote de chasse est petit et léger.
Voilà.
Tandis que Kalamata a un progrès touristique énorme, puisqu'ils
ont... l'ouverture de son aéroport.
Mais seulement pour un semestre. c'est déjà bien.
C'est la nuit, en fait, et le jour, en fait. Kalamata et Patras, c'est comme ça. Kalamata, tout.
Et c'est étonnant, parce que Patras est une immense ville portuaire et elle est très désavantagée du point de vue de la desserte par la route, de la desserte aéroportuaire.
Et c'est une ville qui a une capacité économique énorme. Et c'est une ville aussi qui est de passage, donc avec les réfugiés.
Et le premier ministre de Tsipras sera ici à Patras à la fin du fin novembre. Donc, parmi d'autres, il va annoncer en fait la construction des routes. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'aéroport parce que c'est une demande des autorités municipales. Je ne sais pas s'ils ont des projets parce que c'est comme ça à dire. Je vais ça, ça ne va rien dire.
Vous parliez de deux facteurs du coup, qui font cette donc, légère reprise.
Légère reprise, la première chose qui s'est révélée. Non, vous avez raison. Donc, nous avons une amélioration en ce qui concerne le chômage, ce qui veut dire aussi les cotisations sociales, tout ça, ça va un peu mieux. Ce qui fait que les caisses de l'État se portent un peu mieux. Donc c'est la chaîne. C'est la première chose, la reprise. Mais il y a un autre problème, parce que la reprise est fragile, mais surtout, en fait, nous avons une baisse du chômage. Mais ce qui est très important, c'est que les salaires. Parce qu'avec la crise, nous avions une tendance, qui n'est pas une tendance, une réalité, en fait, très mauvaise, surtout pour les jeunes. Je précise à ce qui concerne le chômage, qui, nous sommes toujours les champions en Europe du chômage, avec les Espagnols, mais les Espagnols en fait ont une croissance plus importante cette année, que ça va un peu mieux pour eux. Et surtout, c'est très important le chômage des jeunes. Lors de la crise, nous avions 45% de chômage jeune, maintenant ça va un peu mieux, c'est 32, je crois, si je me souviens bien des chiffres. Je parle des jeunes de 15 à 30 ans. 15, bon, ça ne veut rien dire parce qu'ils sont à l'école, ouais. Mais surtout des gens qui sont de 24 à 29, 30, en fait, c'est ça. Donc, le chômage, sur le front du chômage, ça va un peu mieux, mais le problème sont les salaires.
Est-ce que je peux vous interrompre un instant, excusez-moi, pour des... oui, ça va mieux, mais est-ce qu'on tient compte de... du départ de 550 000 jeunes en l'espace de peu d'années à l'étranger, donc ça fait aussi baisser le taux du chômage dans notre pays, puisqu'ils sont partis.
Ils sont le chômage, c'est calculé de plusieurs manières. D'accord. C'est d'abord le nombre de gens qui travaillent a augmenté, donc c'est un chiffre qui est important. Et évidemment, c'est très important parce que j'ai un meeting, un ministère en fait, ce qui concerne le brain drain, les gens qui vont en fait des diplômés. Voilà. Donc cette semaine au ministère, je ne sais pas, de l'économie, des spécialistes sur la question, donc je peux me
présenter. Hein.
Et nous avions à peu près, on ne sait pas exactement parce que ça dépend des estimations, mais disons entre 400 et 500 000 jeunes, surtout jeunes, pas tous, mais quand même la grande majorité des jeunes, diplômés d'université. Beaucoup de docteurs et beaucoup d'ingénieurs, médecins et beaucoup d'enseignants qui sont allés dans plusieurs pays, surtout dans quatre pays, Allemagne, Angleterre, Suède et Suisse. Ce sont les quatre pays que chaque année envoient. Par exemple, récemment, on a eu la visite du ministre suédoise en fait, de l'éducation qui nous disait que cette année, ils ont accès. Reçu 1200 médecins grecs en Suède. Donc ce qui est important en fait, c'est de voir en Suède 1200 en 2016. Donc on compte qu'il y a à peu près 450 000 grecs qui ont quitté le pays pendant la crise. Et on a l'impression qu'il y a à peu près 3 sur 4 sont des jeunes diplômés bien formés.
C'est ça, les grosses.
Donc, pourquoi il y a une politique de la part du ministère de l'Éducation de donner le maximum possible de bourses post-doc pour pouvoir les garder ici, en fait. Donc, récemment, il a accordé 3 000 bourses, mais quand même, vous comprenez qu'il y a 3 000, 400 000, il y a un écart. Hein. Donc, chômage et brain drain, mais évidemment, il y a les... question des salaires. C'est un vrai problème parce que avant la crise, d'après les estimations officielles des statistiques, à peu près nous avions 60% des gars qui étaient bien. Nous avions un salaire normal et 40% des salaires de conditions tout plus flexibles. Et pendant la crise, la proportion a été renversée. Nous sommes arrivés à avoir 60% des gens qui travaillent dans des conditions très précaires et 40% qui ont des salaires fixes de conditions normales. Maintenant, depuis 2 ans, la tendance a été légèrement inversée. Nous avions 53 dans des situations très précaires et 45 dans des situations un peu bien, en fait, en conditions normales. Mais encore, même ce n'est pas encore moitié-moitié. Donc c'est un peu mieux, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Hein.
Et donc, c'est entre un taux de chômage élevé et des salaires faibles ou précaires, on se retrouve dans un problème par rapport à une politique keynésienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de demande et donc pas de soutien de l'économie par la consommation intérieure.
Ça commence petit à petit, c'est la politique, parce que les politiques et le gouvernement est de gauche, mais en fait, ce qu'elle essaie d'appliquer, c'est exactement ça ce que vous dites, en fait. C'est comme faisaient les partis centristes de Gaulle aux années 60. Voilà, renforcer le. Voilà. C'est pourquoi cette année, pour la première fois, la consommation des particuliers, en fait, en hausse.
Comment ça va reprendre?
Voilà. Et en partie, en fait, la croissance se doit à 2 facteurs, à la reprise de la consommation et aussi aux exportations. Parce que pendant des années, nous avions un amaigrissement des sociétés, des entreprises. Maintenant, ça va un peu bien parce qu'ils ont restructuré les entreprises. Ils commencent à exporter beaucoup plus. Et c'est un bon signe. En fait, c'est le meilleur signe que nous avons actuellement. C'est ça. Pas la consommation, mais
le redémarrage.
Voilà.
C'est aussi la... tout ça, dans tout ça, ça intervient aussi le salaire et le SMIC. Mm-hmm. Parce que il y avait... Vous avez donné des pourcentages avant la crise et après la crise, mais le SMIC avant la crise était beaucoup plus élevé qu'après la crise.
Là, ça n'existait pas, en fait. Il y a la raison, parce qu'on a parlé d'une génération de 700 euros il y a quelques années, et maintenant, le salaire moyen, en fait, c'est entre 400 et 500. Donc, il y a quelques années, on s'est moqué de la génération de 700. Et maintenant, il est arrivé à avoir une génération d'entre 400 et 500.
Ah, voilà.
C'est beaucoup pire, en fait, c'est un pire.
Et il y a un SMIC en Grèce ou pas?
Oui.
Il y a un SMIC qui officiellement était à 680 euros. Mais quand même, ça passe, en fait, ça n'existe pas.
Mais en fait, personne ne le reçoit.
Voilà, il y a quelques sociétés qui résistent, qui essayent d'être strictes. C'est pourquoi, d'ailleurs, elles se portent très bien. Une de ces sociétés, c'est une... chaîne de supermarchés, on la voit partout, Sclavenides.
Ah oui.
C'est la plus forte société dans le pays. Qui tient en fait le SMIC, tout ça. Elle tient les tiers du marché. C'est elle qui a racheté Carrefour, parce que Carrefour était bien planté ici. Je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une phase il y a quelques années, j'ai un choix, ils sont partis.
Peut-être qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas rester dans un pays en crise.
Peut-être.
Je ne suis pas sûr, parce que nous avons 2 sociétés allemandes qui ont fait la même chose, Lidl et Praktiker, qui se portent à merveille, beaucoup mieux qu'en Allemagne.
Et donc, cette société-là, elle détient à peu près un tiers du commerce de détail en Grèce, et elle continue à distribuer le SMIC.
Et elle paye, paye bien. Une autre petite précision.
Les conditions de travail sont correctes, elle paye à son temps, en fait, ce qu'il faut.
Une autre précision aussi à donner, c'est... le montant élevé de la TVA en Grèce.
Voilà.
Donc ça réduit quand même le panier du consommateur, puisque la vie est très chère.
TVA et taxes, ce sont les deux plaies du pays.
Voilà.
Les taxes imposées par les commissions européennes et les institutions pour pouvoir en fait renflouer les caisses de l'État, ensuite pouvoir rembourser petit à petit les créditeurs. En fait, c'est ça le principe. Mmh. Et tout le monde dit maintenant... Tout le monde, c'est rigolo, parce que tous disent que c'est un peu trop, mais on...
Mais on espère...
24%.
24%. Et alors, est-ce qu'ici, il y a, comme en France, tu sais, il y a 3 taux de TVA. C'est-à-dire, par exemple, la nourriture, les médicaments, les livres, c'est 5,5%.
Non.
C'est 3 aussi.
Ah bon ?
Ah,
il y a 3 taux ?
Il y a 24 ou 23, ça dépend, en fait, 13... pour quelques produits de la consommation, en fait.
En grossiste.
Oui. Et il y a 6% ou 7% pour qui produit médicaments et livres. Donc il y a trois types de TVA.
D'accord.
Mais chaque année, en fait, il y a un conflit. Par exemple, l'année passée, il y avait un gros conflit entre les îles qui, en raison de la crise des réfugiés, tout ça, voulait garder le TVA de 13%. Et le gouvernement a un tout petit peu à trouver un moyen, moitié, 24, 13. Donc il y aurait,
D'accord.
Ou cette année, par exemple, le gouvernement a fait une sottise pour renfler les caisses. Il a mis un impôt sur le vin, qui était en fait vite prise, une taxe, parce que les institutions faisaient pression à l'État d'Israël, il faut trouver encore une somme de je ne sais pas combien de millions, donc ils ont trouvé la solution facile d'imposer le vin, ce qui se prouvait d'être une connerie, parce qu'en fait...
bu de la bière.
C'est ça.
Et qui empêchait les exportations, parce que du coup le vin est devenu plus fort.
Et maintenant, parce que les exportations sont exportées taxées.
Oui, ouais. Parce qu'il faut avoir les caisses, etc. Et donc, depuis 6 mois, le gouvernement essaie d'effacer cette taxe. Et il faut qu'on soit d'accord avec les institutions pour que blablabla. Et surtout, il y a une question de code. Parce que chaque fois qu'on impose une taxe, ça passe dans le code en fait, de l'État, dans le budget, il faut soit trouver un autre équivalent, en fait, comme j'avais dit, soit en fait trouver un moyen pour prendre une décision très simple, en fait, supprimer une taxe stupide, ça prend plus de 6 mois, en fait. Là, c'est...
Je m'en souviens quand j'étais à Thessalonique. Et à Thessalonique, c'est par rapport à tout ce qu'on dit. Et à Thessalonique, il y a un feuilleté au fromage. Et le même feuilleté, on le fait aussi à la crème. Du coup, il y a le salé et le sucré. Et il y avait ce débat entre le taxe. Pour le sucré, c'était 13%, je crois. Et pour le salé, ça montait à 24%. Du coup, après, le peuple voulait un peu...
salé aussi.
Non, c'est pas ça. Vous voulez un peu donner, si vous voulez un point de vue plus rigolo. Et du coup, il disait... ne mets pas le salé parce que c'est 24% le taxe, mais le sucré plutôt. Et il faisait des blagues comme ça. Il y avait des blagues, mais c'est impressionnant comment quand tu passes du sucre au sel, il faut changer un taxe, presque la moitié du taxe.
C'est Bugatti.
De la taxe.
Oui,
Bugatti.
C'est un produit local.
En France, on a la même chose. En France, si tu achètes une tablette de chocolat, elle est taxée à 5,5%. Si tu prends du chocolat aux noisettes, tu passes à
1,6. Le chocolat noir aussi, taxé différemment.
Ça devient un produit.
C'est des questions. J'avais une question, parce qu'on parle des conséquences de la crise là, actuellement, mais est-ce que vous pouvez nous parler, selon vous, votre analyse des causes? Pourquoi cette crise, comment vous analysez le fait qu'il y ait eu cette crise? Elle est présente ailleurs, elle n'est pas que chez vous.
Je ne suis pas économiste. On m'a invité plusieurs fois parce que nous avons des associations ici, donc j'ai évité de parler des aspects économiques parce que je ne suis pas un économiste. Donc j'ai parlé surtout des autres aspects, valeurs, tout ça. Je pense parce qu'il y a essentiellement trois causes. La première cause est un état en fait très généré, entre guillemets, en fait de passer de ce n'importe comment. Et c'est un état très lourd clientéliste. En fait, les dépenses du gouvernement, je connais des personnes en fait qui occupent des postes dans le public en fait en train par ce qu'on appelle par la fenêtre. Donc il y avait un état clientéliste à développer depuis 20 ans. On faisait n'importe quoi. On nommait n'importe qui, en fait n'importe comment, etc. Et ça a duré à peu près 20 ans. Là, cet aspect existe. Un état très, mal organisé, avec le gouvernement qui faisait n'importe quoi. C'est un aspect local. Il y a un deuxième aspect qui est européen, en fait, parce qu'on a mis dans la commission, dans l'Europe, des chevaux inégaux. Et à travers l'euro, en fait, on a essayé de construire quelque chose qui est un peu particulier. Donc, on a mis des pays, Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, avec d'autres pays comme le Portugal ou la Grèce, qui ont un niveau de développement différent, se servir de la même monnaie. C'était impossible. Parce que depuis notre entrée à l'Union européenne, mais surtout après l'adoption de la monnaie unique, on s'est trouvé, alors que la Grèce satisfaisait à peu près 77% de ses besoins en ce qui concerne nourriture, tout ça dans les produits de base, on s'est trouvé juste avant la crise de couvrir seulement les tiers, de 77% d'arriver en fait de couvrir seulement les tiers des besoins.
Avec
la production locale, ce qui veut dire deux choses. D'abord, beaucoup de sociétés locales ont fermé, ou beaucoup de sociétés ont parti, ou vendu, en fait, racheté par d'autres sociétés. On sait que beaucoup de sociétés grosses sont allées en Bulgarie ou en Albanie, parce que les conditions sont beaucoup mieux pour elles, favorables, ou une autre partie des sociétés a été rachetée, surtout par les Allemands, parce que nous avions des sociétés, par exemple, des frigidaires, des aéroports, mais c'est récent ça, des machines en fait, des produits en fait agricoles qui sont achetés surtout par les Allemands, mais les Américains aussi. Unilever, par exemple, une société américaine, en fait, a acheté presque tous les produits, savon, sauce tomate, de l'huile, en fait, tout, en fait, les produits. Parce qu'on avait une grosse société, elle s'appelait Laïs. Une société de sauvation avec beaucoup d'usines achetées par les Américains. Il y a Pizzos, une très bonne société en fait, qui construisait des machines en fait, électroménager en général, voilà le terme, en fait, acheté par Bosch, la société allemande. Donc pendant, dans l'espace de quelques années, on avait des modifications incroyables.
Et ça, c'était lié à l'arrivée de l'euro, quoi. Le fait de rentrer dans la monnaie unique.
Ça commençait plutôt, mais avec l'euro, la cadence a été accélérée, donc on a eu la fermeture de beaucoup de sociétés.
Si nous parlons de la différence de l'euro avec la drachme,
il y avait aussi d'autres faits, parce qu'avec l'euro, en fait, on a eu soutien le sentiment de gagner plus, parce que l'euro, en fait, c'est une monnaie très forte. Donc par rapport, vous aviez le franc, donc l'équivalent était à 7 et quelques. Pour nous, le DAC, c'est 340 DAC pour un euro. Vous comprenez l'équivalent. On avait le sentiment tout de suite d'avoir beaucoup d'argent, tout ça. Et ce qui a fait dans l'espace de quelques années, en fait, les gens laissaient tomber la production agricole ou les secteurs, disons...
Production.
Et de devenir des fonctionnaires, de faire du commerce, exportation, tout ça, de passer ce qu'on appelle au tertiaire. Et ce qui fait que
la croissance est tombée.
Là, c'est pas seulement, mais on a laissé toute la partie productive, en fait.
Est-ce qu'il y a un retour à
récemment, après la crise, ça existe un retour. On a essayé de convaincre les gens de rentrer des villes. Petite communauté, je ne vais pas dire au village, aux petites villes, il y a un retour. Surtout au début, on parlait de 200 000 jeunes qui ont quitté Athènes et Thessalonique pour rentrer chez eux, pour s'occuper de l'agriculture, tout ça. Je ne sais pas en fait si c'est les chiffres exacts, mais de toute façon, ce qu'on voit en fait, la campagne est un peu différente après la crise, parce qu'à peu près partout, on voit en fait des terres cultivées, tout ça. Il y a un changement. Et on sait très bien en fait que la crise a frappé surtout les villes. Parce qu'à Athènes, par exemple, ou à Thessalonique, les autres villes, même pas à Sicile, on a vu des boutiques fermées dans l'espace de quelques jours l'une après l'autre.
Des
beaucoup de chômeurs. Voilà. Alors que dans les petites villes, dans les villages, la crise n'est pas si visible. On n'a pas en fait les moyens pour bien vivre, mais quand même ça va. On a les minimums en fait,
Et le retour dans le noyau familial.
Oui.
Mais avec les parents qui peuvent.
Ça, c'est vrai.
Qui continuent sans
contribuer un tout petit peu.
Surtout les grands-parents. Oui.
Les grands-parents.
Les grands-parents. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi les grands-parents?
Et il y a aussi
parce que c'est une génération qui a eu le temps d'avoir sa retraite. Donc, avec les parents, ce n'est pas évident.
Et qui n'a pas tout dépensé, qui a gaspillé.
Voilà, et chaque fois, elle faisait pareil. Donc, c'est pourquoi souvent les grands-parents réagissent.
Comme notre génération de grands-parents.
Et que va-t-il se passer maintenant avec la nouvelle, la nouvelle fournée, la nôtre, comme je suis plus âgée que vous, pour toucher notre retraite? Y aura-t-il assez de jeunes qui seront donc actifs et qui pourront donc garantir une retraite?
La même question chez nous.
La cotisation énorme que nous avons.
C'est dans tous les pays en fait qui ont un problème de chômage un peu élevé, en France, et surtout une population en fait qui vieillit, hein, ça aussi.
Oui, voilà.
Nous, ici c'est plus aigu parce que le taux de chômage est beaucoup plus élevé, donc les gens qui cotisent en fait, le nombre de cotisants relativement bas, pas relativement bas, et donc c'est pourquoi les caisses sont vides. Mais il paraît que ça va un peu mieux parce que ce gouvernement, sous la pression aussi des instances européennes, il a proclamé la guerre contre ce qu'on appelle le travail noir. Donc bon, le nombre des cotisants est beaucoup plus important actuellement, et là c'est évidemment, c'est avec beaucoup de sang, hein. Parfois avec les gens sont obligés parce qu'il y a
la pression.
Les services en fait qui s'en occupent, qui sont beaucoup plus sévères maintenant, donc vous comprenez, parfois il y a des effets.
Là j'ai eu une instance parce que je suis dans la catégorie des entrepreneurs, et donc je vais vous libérer. Je payais l'année dernière 875 euros pour ma cotisation obligatoire tous les deux mois. Et avec l'union des caisses de sécurité sociale qui étaient assez nombreuses dans ce pays, je paye 1589,48 par mois. 1589,48 par mois.
Ça
je paye trois fois plus, trois ou quatre fois plus de cotisations. Au lieu de les payer 875 tous les deux mois, je paye 1589. Car je me trouve dans une catégorie économique, d'après eux, qui se trouve dans la même catégorie que les grands armateurs grecs. Mais les grands armateurs grecs ont le plafond, je vous explique, je ne sais pas si vous êtes au courant, ont le plafond et ils peuvent payer jusqu'à ce montant de 1589, même s'ils touchent des milliards. N'est-ce pas ? Étant taxé de 50 000 euros, je me trouve exactement au plafond. C'est absolument incroyable. Et j'ai 7 employés, vous imaginez. C'est la seule chose correcte, c'est que je crée des postes d'emploi. Et bien sûr, je suis honnête jusqu'au dernier centime.
Là, c'est un problème. En fait, il y a beaucoup des réactions, surtout des gens, en fait, comme...
Cher
Leïla.
Je suis cher. Pour la Grèce, je suis un bon client.
Parce qu'il y a 3 ans, on parlait d'une imposition progressive. En ce qui concerne surtout les métiers qu'on appelle des professions libérales. Parce que tout le monde payait la même chose. Même si tu avais, je sais pas, un petit travail, même si tu avais une société, tout ça.
Voilà.
Chacun avait une cotisation fixe. Voilà. Et on a beaucoup parlé de la cotisation progressive, ce qui était une mesure formidable, parce que si tu gagnes 100 euros, tu payes 10 euros. Si tu gagnes 10 000, tu payes 1 000, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas avancé dans cette direction. Je pense que ce n'est pas encore...
C'est un stade de... d'alchimie, comment de
d'essai.
Et ils vont voir à la fin de l'année 17 s'ils vont baisser peut-être mon panier de cotisation.
Je te rassure, les gars, en France, on était habitué à une cotisation progressive, on vient de passer sur flat tax.
Une flat tax.
Ça même pour tout le monde.
Quel que soit la revenu.
Ça existe dans plusieurs pays, mais c'est surtout dans des pays qui n'ont pas les moyens.
Justement, c'est pour ça.
Juste le troisième point, troisième problème, parce que vous avez parlé de l'État, de l'Europe, et vous avez dit
on parlait de l'État très financier, de la monnaie, et la troisième, et ce qui m'est cher en fait, c'est je dirais sur le plan des idées, hein. Nous n'avions pas en fait comme société quelque chose de précis en fait comme objectif, comme valeur à poursuivre. En fait, même aujourd'hui, on est très divisé en fait, on ne sait pas où aller, quoi faire. Ça se voit partout en fait. C'est une société en fait. Je peux comprendre pourquoi, parce que c'est une histoire très longue. Mais de toute façon, nous n'avions pas une orientation claire pour aller. Et un des. Comment dire, c'est tout à fait personnel en fait, ce que je dis. C'est peut-être un des bénéfices du gouvernement actuel, c'est que puisque c'est un gouvernement de gauche, initialement du moins, en fait, une des choses positives serait que, du moins, jusqu'à maintenant, nous avions une partie surtout vers la gauche, parce que nous avons aussi une autre partie à droite, qui en fait chaque fois mélangeait un discours un tout petit peu nationaliste et un discours pro-européen. Ça, parfois, c'était la salade. Maintenant, le discours, la situation est beaucoup plus compliquée parce que c'est le gouvernement de gauche, c'est un des paradoxes les plus importants qui existent dans ces pays, qui est plus pro-européen que soit, disons, les autres partis qui étaient pro-européens. Par exemple, le Parti conservateur de la Nouvelle Démocratie est le parti qui a fait entrer les pays à l'Union européenne, car la Malice, leur fondateur, était pour l'Europe. C'est lui qui a essayé de semer les idées européennes, les idéaux, tout ça. Actuellement, nous avons des réactions surtout de ces partis, en fait, évidemment, d'autres partis, surtout les extrémistes de droite, les fascistes, en fait, là, évidemment, c'est contre tout ça, évidemment. Et nous avions aussi d'autres noyaux, par exemple, le Parti communiste, mais qui est petit, mettant 5-6% qui est contre l'Europe. Mais de toute façon, il y a un problème d'orientation. Je le vois dans tout. Et évidemment, le contrôle des institutions, parfois un peu sévère. Je représente le ministère grec récemment, depuis quelques temps, auprès des instances internationales, OCDE, etc. J'ai eu l'occasion récemment, en fait, avant d'être chargé de ça, de parler avec quelques dignitaires, une espagnole, une allemande, etc. J'étais choqué par le comportement de l'espagnole. Très conservatrice, elle appartient évidemment au parti de Rajoy, mais elle se comportait comme si elle était en fait celle qui me dirait en fait vous êtes des gens en fait corrompus et voilà je suis là pour vous faire des hommes comme vous, etc. J'étais choqué par son comportement, j'ai rien dit en fait, je dis ce que vous dites, ça me paraît un peu simple, la discussion s'est arrêtée et ça y est aussi elle me parlait parce qu'ils sont des gens, c'est une élite dans travail des institutions qui se comportait comme si elle était, je sais pas qui, et moi, rien du tout.
C'est vers là aussi qu'on voulait venir, puisque c'est faire cette question de valeur et l'éducation, en fait, dans le pays. Et est-ce que le directeur que nous avons vu la dernière fois l'évoquer, il y a eu des changements, de nombreux changements de programme. Est-ce que dans les changements de programme qui sont en cours, de programme, donc des cours hein, scolaires, en cours ou à venir, est-ce qu'il y a justement cette volonté de, à un moment donné, tracer cette route commune, ces valeurs communes des Grecs? Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet?
Sûrement, parce qu'actuellement, parce que je les connais personnellement, sont mes collègues, il y a ce qu'on appelle ici l'Institut pédagogique, c'est l'institution qui s'occupe des programmes scolaires, et il y a un groupe des historiens qui font des bouquins maintenant, je les connais tous très bien, sont des pro-européens, des gens très ouverts, cosmopolites, et qui ont beaucoup de réactions, surtout de la part des conservateurs. Conservateurs qui appartiennent à la Nouvelle Démocratie, aussi sont des fachos, tout ça, parce qu'ils essaient de faire tous les manuels de géographie, d'histoire, tout ça, qui sont avec des nouvelles valeurs, beaucoup plus ouverts, je ne vais pas dire pro-européens, parce que je suis convaincu un pro-européen, donc je ne le dis pas.
Oui.
Et malgré quelques réticences, réactions évidemment. Et donc, ils vont dans cette direction-là. C'est pourquoi, en fait, je suis avec qui, en fait, chaque fois, je les soutiens, tout ça. Le problème, c'est qu'on peut faire des manuels, mais vous savez, actuellement, ce n'est pas l'école qui peut modifier, en fait, les cours de l'histoire ou faire des choses. Parce qu'il y a la télé. Il y a les médias, il y a tout ça. Donc, le rôle de l'école, ce n'est pas comme dans le passé où tout passait par l'école. Actuellement, ce rôle est, je dirais, plutôt relativement réduit. Par exemple, il y a quelques années, c'est le parti fasciste, en fait, qui a construit des écoles parallèles. Il y avait une réaction, même moi en fait, j'avais une déclaration à l'époque en journal tanné en disant c'est inadmissible, c'est la logique de Hitler, tout ça.
Des écoles et parallèles
parallèles, par exemple, ils ramassaient tous leurs enfants. Leurs enfants, en fait, les gens qui appartenaient à les parents qui soutenaient ce parti, ils faisaient des classes à côté où les membres du parti disaient aux enfants, on faisait ça, on faisait là. Et quelqu'un, un ex-membre du parti, en fait, quelqu'un qui a laissé ce parti-là, a donné des images et des photos. Donc on a commencé une campagne contre tout ça, et il y a 4 ans, 5 ans, en fait. Donc c'est un journaliste d'année qui m'a appelé en disant, j'ai commencé à... Et même j'ai reçu indirectement des menaces en disant qui est celui, le gars qui a osé parler contre nous, qui a dit ça. Bon, bref. Et donc, je pense dans l'école, ça va beaucoup mieux. Surtout, nous avons des collègues très compétents. Et je dis, je suis en fait, je ne vais pas dire fier, mais de toute façon, ce sont 5 les historiens, 3 sont en fait des études en France. Donc, Christina Koulouri et Giorgos Kokkinen sont des bons historiens qui ont fait des études en France. Et ils font des bonnes choses. Mais évidemment, l'école est une chose actuellement. Ça passe pas tout par l'école. On peut avoir la meilleure école, d'avoir des médias qui sont des journaux terribles, en fait.
Mais alors, peut-être, sauf si je dépasse, et puisqu'on parle de médias, est-ce que justement au niveau de la télévision publique, de la radio publique, est-ce qu'il y a une volonté de la part du ministère de l'Éducation nationale de dire, ben voilà, je peux travailler avec les médias de l'État? Est-ce que ça, c'est... Il y a une réflexion à ce sujet.
Ils font des émissions, mais le problème, c'est avec la télévision publique. À part, il y a aussi ce qu'on appelle la chaîne du Parlement.
Oui.
La chaîne du Parlement est une petite chaîne, à peu près à 1% de la population qui suit les informations, qui fait du bon travail, très bon travail. La chaîne publique a beaucoup de beaucoup de faiblesses. C'est trop attaché à chaque fois au gouvernement, en fait. C'est mauvais comme pour une chaîne publique. Ce qui fait en fait que leur audience est relativement réduite. Ils ne font pas plus de 10%, parfois 7%, parfois 8% de l'audience, alors qu'il y a des chaînes privées, excusez-moi, Madame le professeur merdique.
Ça va, c'est un mot que je connais.
Donc c'est les chaînes publiques. Il y a beaucoup de chaînes qui sont vraiment n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Donc,
et c'est celle-là qui ont le plus d'audience. Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a une éducation au numérique à l'école qui est envisagée, éduquer pour mieux justement, éduquer les enfants pour mieux travailler avec l'outil Internet? Est-ce que ça, c'est quelque chose, il y a une réflexion à ce sujet?
Vous savez que ce qui concerne l'informatique, tout ça, c'est le plus financé par la communauté. On a beaucoup de discussions partout. Donc ici, on est arrivé à avoir le plus grand programme du ministère, c'est exactement le numérique. Alors, j'ai appris récemment que c'est 15 millions d'euros seulement pour ce programme. C'est immense. 15 millions, c'est le budget de la région ici, en fait. Trois fois le budget de la région. Et d'ailleurs, j'étais étonné parce que je n'ai pas vu grand-chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais quand même, le budget existe, les programmes existent. Je ne connais pas exactement ce qu'il faut, en fait, je ne vais pas dire. Hein.
Oui, parce qu'il y a un gros problème autour du numérique, c'est que c'est très coûteux d'acheter des machines, mais ensuite, la vraie éducation numérique, c'est quel usage on en fait.
Oui, voilà, c'est vraiment par rapport à ça,
voilà.
Quel usage.
Quelle autonomie on a par rapport à ces outils. Combien
de vie ont
les machines.
Oui, parce que là, on parlait de médias à la télé, mais c'est très vertical, il y en a un qui parle et des millions qui coûtent, alors qu'on pourrait imaginer avec l'Internet, ce qu'on appelle la SIC, technologie pour la citoyenneté, quelque chose de plus à plat où les citoyens pourraient intervenir, ou je pense par exemple à Barcelone qui a un programme avec des budgets participatifs, et là effectivement les citoyens eux peuvent faire des choses, s'impliquer avec un mouvement ascendant plus important.
Et y a deux choses en fait parallèles. La première, en raison de la crise, nous avons beaucoup d'associations en fait, des initiatives. Par exemple, moi, je fais partie de ce qu'on appelle une association qui s'occupe en fait, du recyclage. C'est dans la région, ça se porte bien en fait. la région de Patras, quelques collègues de l'université qui ont pris l'initiative. Donc il y a plusieurs associations de ce type. En ce qui concerne la télé, nous attendons en fait depuis 2 ans maintenant des évolutions parce qu'il y a les paysages des médias complètement chaotiques. Il y a des raisons en fait depuis 20 ans. Donc le gouvernement a passé une loi d'après laquelle il y aura un nombre limité de chaînes et qui seront achetées par des gens qui veulent les acheter. Donc nous aurions des chaînes nationales et puis des chaînes en fait thématiques. Par exemple, ça pourrait exister une chaîne comme ça, dans le sens que vous dites numérique, ou une chaîne qui s'occupe uniquement de la culture en fait. Donc c'est presque art, disons. Donc, et là, ça aurait dû démarrer depuis au minimum 6 mois, mais nous avons beaucoup de réactions de la part des propriétaires de télévision parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont rien payé. Donc à chaque fois que l'histoire démarre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel au tribunal qui est chargé de tout ça en disant il y a cette partie de la loi qui n'est pas tout à fait constitutionnelle. À chaque fois, ils les font exprès pour ne pas payer.
Retarder.
Voilà. Donc le troisième, c'est un aspect très important, les valeurs. On discute beaucoup en fait. Moi, je travaille comme vous à l'éducation, donc. Sinon, comme en France, il y a une partie en fait de l'éducation. Nous sommes obligés de suivre les directives, disons, européennes. Par exemple, il y a un pourcentage de thèmes, etc., qui est évidemment sur à la Constitution européenne. Là, c'est inévitable. Lorsqu'on fait des manuels, il y a quelque chose qui est presque obligatoire de mettre sur la Constitution. Là, c'est à tous les pays pareil. Hein.
Enfin, je pense que c'est partagé. On est sensible à cette troisième cause, qui est celle des valeurs, parce qu'en fait, dans les pays où ça redémarre, en fait, on est en train d'à nouveau oublier qu'on peut tout à fait y retomber. Et on, justement, on ne prend pas le temps de dire « mais qu'est-ce qui nous unit ?» Et donc la question des valeurs, je ne suis pas sûr qu'elle soit traitée dans les pays où la croissance redémarre. Et donc c'est très important, je pense, de justement qu'il y ait une réflexion. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui prend du temps.
Mais comme tu dis, ce n'est pas un problème grec.
Ah non,
parce
pas
que
du
nous,
tout.
On est un problème européen. On est très très divisé, pareil. Enfin,
tout à fait. C'est un
problème. Il y a une droite qui était pro-européenne qui ne l'est plus. La droite, Macron, c'est compliqué,
Mais
c'est ça, on est perdu.
Oui, hein.
C'est un problème européen, et je dirais même dans l'absolu, pour certains points, c'est un problème global.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment un problème.
Par exemple, c'est comme en France, c'est pareil ici. La plupart des paysans votaient ici pour le parti conservateur. La Nouvelle Démocratie a des exceptions près, par exemple, pendant une période, ils votaient pour le parti socialiste en raison de Papandréou, père qui était très charismatique. Pour quelques mois, ils ont voté pour Tsipras lorsqu'il est apparu à. Mais majoritairement, ils votent pour les conservateurs. Et vous comprenez, ils ne sont pas très ouverts en fait, européens. Chacun regarde son domaine. C'est pourquoi un parti conservateur qui, en principe, est pour l'Union, a beaucoup de gens qui votent pour lui qui sont contre. Ce qui fait que parfois, que ses positions sont anticipées. Et nous avons aussi en Grèce, qui est typiquement grec, nous avons une gauche qui est un peu particulière. Nous avons beaucoup, beaucoup de morceaux parti dans tous les sens, surtout après l'action pouvoir du Syriza. Il y a des partis de Syriza qui sont partis, sont des partis qui comptent à peu près 1%, 1% et demi, qui en fait font des choses parfois, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, moi personnellement. Donc, ils ne pèsent pas sur la scène politique, mais parfois ils peuvent faire des choses, par exemple des manifestations, des mouvements de protestation, tout ça, là ils sont présents.
Là ils sont ensemble.
Ouais. Donc tout ça, ça fait à peu près, si on compte aussi le Parti communiste, à peu près 10% de la population. Nous avons aussi à 7% qui est la droite fasciste, donc ça fait 15% à peu près de la population qui ont touché les. Mais pas ensemble, ils sont très différents, ok?
L'obdoré, c'est combien de pourcents?
7%. Le Parti communiste, c'est entre 5 et 7%.
Et obdoré,
c'est un parti très bien organisé, mais très discipliné. C'est pas comme le votre parti, en fait. C'est très discipliné. Ils font une manif, ils font rien. Par exemple, le protestant vient au ministère, bien organisé. dans leurs papiers, ils s'en vont. Alors qu'il y a quelques autres parties de la gauche, par exemple, ils étaient quelques jours au ministère de l'Éducation, ils ont cassé la vitrine. Tout.
Oui, d'accord, c'est l'image après qui.
Ouais. Ça rappelle un tout peu de la France des années 70. Ouais.
Ah, écoutez, en tout cas, on ne veut pas plus davantage prendre du temps.
Okay. Je sais pas si.
Donc, en ce qui concerne la crise, alors nous avons quelques signes de reprise. Nous avons encore pas mal de questions non résolues. Okay. Et surtout, la question la plus résolue, ça concerne le travail des jeunes. Donc, diplôme, travail, tout ça. Et en ce qui concerne les accords, 5-10 minutes pour les réfugiés, en fait.
Oui.
Parce que c'est la question que. Leïla tient en fait toujours.
Ben, je travaille beaucoup, hier, on essaye de développer. Mais
et l'année passée, nous avions organisé quelques conférences, il y avait des Français, comme, des Allemands aussi.
Oui, maintenant, ça va être le troisième cycle, à Berlin. Ah.
Donc, la semaine prochaine, j'irai au Liban pour visiter en fait, des centres réfugiés, en fait, parce que c'est un programme anglais, financé par les Anglais, donc c'est de. Équipe italo-anglo-libano-grec. Donc, j'étais récemment en Sicile pour voir des réfugiés là-bas. Et maintenant au Liban. Je ferai un petit article en fait de comparaison parce que les Italiens sont un peu différents que nous, une politique un peu différente. Donc, vous savez les raisons pourquoi il y a tout ça, il y a le conflit, il y a la pauvreté, tout ça. Donc, les chiffres des réfugiés, en fait, actuellement, sont à peu près 25 millions mondialement, d'après les estimations de l'UNESCO et des Nations Unies. Parmi ces, un grand nombre, à peu près les 40% sont des enfants. Donc, presque la moitié fréquente l'école, l'autre, c'est en dehors de l'école, c'est un problème. Donc, 25 millions à peu près actuellement, 10 millions d'enfants, donc la moitié ne fréquentent pas l'école. En Europe, en fait, cette histoire surtout a commencé en fait en 2015, après le conflit Proche-Orient, la Libye ensuite, l'Irak et surtout après la Syrie. Et donc, nous avions des flux de réfugiés dans la région, surtout en 2015. Nous avions plus d'un million dans la région en Grèce qui ont traversé la Grèce à travers la côte turque, ensuite les îles grecques, qui ont passé ensuite en Grèce centrale, et puis à peu près 80% est allé directement en Allemagne. Les Allemands, par exemple, comptaient à l'époque qu'il y a à peu près 800 000 réfugiés, surtout syriens, sont installés là-bas. Donc, c'était en 2015, et cette histoire a continué en 2016. En 2016, on a eu beaucoup de discussions parce qu'on a vu que la situation devenait insoutenable. Les Allemands ont commencé à réfugier, à accepter. Donc, on avait des réfugiés presque partout, surtout dans la région, ici, surtout en Grèce, et moi en Italie. Parce qu'il y a deux raisons, en fait, d'abord les îles grecques et ensuite Sicile et quelques régions autres italiennes. Donc, en 2016, malgré les mesures que nous avons entre-temps prises, nous avions à peu près 400, presque un demi-million de réfugiés dans la région, surtout en Grèce. Un demi-million. Alors qu'en 2015, nous avions un million, en 2016, un demi-million. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y avait un accord entre la Commission européenne, l'Europe et la Turquie. L'accord prévoyait qu'il y avait, je pense qu'il y avait 9 points ou 8 points, d'après lesquels, blablabla, les principaux points, c'était que les communautés finançaient la Turquie pour pouvoir garder en Turquie, en fait, les réfugiés. Donc, ils avaient promis 3 milliards d'euros. Ensuite, la Turquie demandait beaucoup plus. Pour, ensuite, avec l'argent, en fait, les Turcs construisent des infrastructures et des contrôles. Des mosquées, excusez-moi. Et c'était ensuite pour qu'il puisse en fait contrôler plus les frontières. Là, c'est un problème. Et ensuite, il y avait d'autres points. Par exemple, il y avait un contrôle entre le Brésil des autorités grecques avec les autorités européennes, ce qu'on appelle Frontex. Frontex est le corps qui est chargé de la surveillance des frontières européennes. Et ensuite, il y avait autre clause dans l'accord qui était très critiquée par les organisations humanitaires, comme quoi, si quelqu'un n'avait pas de papiers, s'il n'était pas légal, la Grèce avait l'obligation de les rendre, de les renvoyer tout de suite en Turquie. Ça, c'était une clause très critiquée, sévèrement critiquée par les autorités, par les organisations humanitaires, tout simplement parce que si on était réfugié, forcément, on n'a pas de papiers.
Et alors, juste pour ce point-là précis, ce retour était financé par l'Union européenne ? Ou par la Grèce ?
Financé par les autorités européennes.
D'accord. Parce que je rappelle, c'est 3 000 euros, je crois, pour le retour pour une personne. Hein. Mm-hmm.
Donc, on ne sait pas exactement combien de réfugiés ont été renvoyés, parce que dans les journaux ici, on parlait que le gouvernement grec a caché des chiffres. On parlait officiellement de quelques centaines, mais on dit que c'est quelques milliers comme ça renvoyés. Là, c'est un problème de l'accord, peut-être le plus critiqué. Et évidemment, il y avait d'autres, comme quoi il y aurait des corps communs européens, grecs, turcs, en fait, qui se chargeraient du bien-être des réfugiés, ou chaque fois qu'on renvoyait un réfugié en Turquie, on était obligé d'accepter un autre, etc. Il y avait des choses qui ne comptent pas.
Oui, mais un autre problème, désolé, je vous interromps, est que, par exemple, les autres pays, plutôt l'Allemagne, avaient ouvert les frontières pour qu'ils puissent accueillir des réfugiés. Mais par contre, ils prenaient à chaque fois 10 personnes, par exemple. Ce qui faisait qu'on gardait les réfugiés, même si on n'avait pas trop les installations partout, pour garder tout ce monde. Mais ils étaient en attente. C'est le grand problème
d'un maintenant. Entre les pays européens, il y avait un accord que chaque pays accepterait, serait obligé d'accepter un certain nombre. Par exemple, la France devait accepter en 2017 ou 2016 3 600, l'Allemagne 6 000, etc., etc. Donc aucun de ces pays n'a observé, respecté sa promesse, à l'exception du Portugal, qui a bien démarré initialement, qui a fait plein de choses. Et ensuite, la France. Ce sont les deux pays qui ont respecté presque leurs paroles. La France presque, le Portugal presque. Et récemment, on peut dire que aussi les Pays-Bas ont fait, et la Suède sont à peu près, en fait, au quota qu'ils ont. Tous les autres, surtout les pays de l'Est, ils n'ont rien fait. Évidemment, quelques autres pays, comme la Roumanie, la Bulgarie, ont accepté quelques réfugiés, mais les réfugiés sont partis tout de suite. Évidemment, les conditions sont beaucoup mieux ici que là-bas. Donc, ce qui fait avec tout ça, dans les pays arrêtés à peu près actuellement, nous avions officiellement 62 000 réfugiés, 62 000 officiellement. Quelques Allemands contestent les chiffres en disant que le gouvernement dit pas vrai, que le nombre en pays autour de 50 000, mais quand même, bon, peu importe. Là, c'est officiellement 160 et quelques mille. Et ça change en fonction, parce que récemment, nous avions... Après l'accord de la Turquie, nous avons une baisse considérable des arrivées. Pas mal de réfugiés, ensuite, après cela, se sont dirigés vers l'Italie. C'est pourquoi nous avions eu, entre-temps, une augmentation des réfugiés en Italie. Les Italiens sont très sévères, contrôlent beaucoup plus sévèrement la région. C'est pourquoi, récemment, un petit nombre de réfugiés va vers l'Espagne. Les Espagnols ont fait comme les Italiens. C'est pourquoi, depuis quelques jours, quelques semaines, nous avons des réfugiés qui essaient de traverser la Roumanie. Ils vont derrière, ils font le tour. Voilà, parce que les Roumains n'étaient pas prêts à contrôler, surveiller les frontières. C'est pourquoi nous avons, en fait, un mouvement vers la Roumanie. Mais ça change en fonction du temps, parce que récemment, on dit, par exemple, en septembre, nous avions eu 2 500 réfugiés dans les îles grecques. C'est pourquoi soudain, on a commencé à rediscuter en fait de leur situation là-bas dans les îles. Grosso modo, nous avons 60 000 réfugiés qui sont répartis dans trois pôles. Un pôle, c'est dans Athènes, il y a à peu près en fait entre 15 et 20 000 à Athènes. À Athènes, la plupart habitent dans des apparts, mais il y a aussi des centres de ce qu'on appelle d'hospitalité en fait.
Des concentrations.
Pas concentration.
Non, pas
d'accueil.
La concentration. Non,
parce que
c'est tout ce qu'on appelle d'accueil en fait. Le centre d'accueil, ici on l'appelle des camps, mais le centre d'accueil c'est le terme officiel. Ok. Donc à peu près le tiers c'est à Athènes et un autre, pas tiers, le quart près de Thessalonique. Là aussi, sont à peu près le tiers des habitants là-bas sont dans des apparts, les autres sont dans des centres d'accueil. Et puis il y a à peu près le tiers dans les îles. Là, c'est la situation la plus difficile. Les conditions sont les pires en fait. Oui. Et puis le reste, il y a quelques 3, 4 000, 5 000 max qui sont dispersés dans le reste du pays. Surtout dans la région de Yannena, en Épire, pas loin d'ici. Et évidemment, comme vous le savez, il y a un petit nombre, récemment un très petit nombre, ils sont actuellement, d'après ce que j'ai appris, 112 à la Aquiline. 112. Le nombre est baissé.
Oui, parce qu'il y a 112. Avant, c'était 360.
Ils sont venus à.
Peu, ça nous a paru peu rempli, voilà. Mais, ouais. Mais en même temps,
il n'est
pas dehors.
Il y a 112. Un an et demi, c'est 340.
Voilà. Ouais.
Donc, ils sont à peu près 60 000, à peu près un tiers dans des appartes, les autres sont dans le centre d'accueil.
Les appartements sont payés par l'État ou par eux, eux-mêmes?
Non, tout c'est financé par la Commission européenne.
D'accord.
La Commission européenne. Ici, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est leur organisation. Ici, en Grèce, à l'opposition de ce qui se passe en Italie, c'est surtout géré par ce qu'on appelle des ONG, qui sont pour la plupart ici multinationales, qui, je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas en fait, parce qu'ils sont des petits, le plus important c'est Praxis. C'est une multinationale danoise et hollandaise qui gère une grosse partie de l'histoire, beaucoup d'argent en fait, des millions, des centaines de millions, Praxis, même s'il n'y a pas trace. Ils ont des installations, en fait, deux bâtiments gérés par cette société Praxis. C'est des installations pour des jeunes.
Des
mineurs non accompagnés, on les appelle ici. Exactement, des mineurs non accompagnés. Nous avons deux bâtiments, pas loin d'ici, le deuxième c'est derrière. Ils font des activités. Praxis et puis il y a d'autres sociétés multinationales. En revanche, en Italie, ça n'existe pas. Ils sont gérés par ce qu'on appelle des associations, mais c'est, le terme associatif et association et trompeuse sont surtout des consortiums des sociétés privées. Coopérative, en fait.
Coopérative sociale, mais qui n'est pas. Ça le statue, mais ça n'a pas le.
Mais sont des Italiens. Voilà. J'ai l'impression, personnellement, en voyant la situation, c'est une partie des mafias.
Oui, les coopératives, les deux capitales. Tu as entendu, Agnès, ce qu'il a dit dans le journal coopératives?
Je comprends d'un seul coup pourquoi il y a toute une littérature policière italienne actuellement qui met en avant l'implication de la mafia dans ces sociétés coopératives qui gèrent les réfugiés, et notamment ceux qui sont écrits par Giovanni De Cataldo, qui par ailleurs est juge d'instruction.
Avec,
je vais les lire moi, si c'est intéressant, je dois les faire. Donc, je suis sûr, parce que je vis les conditions, nous a parlé d'ailleurs, lorsqu'on est allé à Sicile, on nous a amené dans un centre d'accueil, mais qui est différent des Grecs, parce qu'il y a des gens qui seront renvoyés. Là, c'était une prison. J'étais choqué, je vis quelqu'un qui faisait ça.
Tu sais à quel endroit c'était, Sicile?
C'est une petite ville, j'ai oublié son nom, mais je l'ai monté sur la carte. c'est un centre de concentration, ça rappelle un petit peu ça. Donc c'est un champ de concentration. Et il y avait d'autres, de jeunes surtout, parce qu'ici en Grèce, ce sont surtout des Arabes, Syriens, Irakiens, la majorité, aussi des Africains. En Italie, les réfugiés sont surtout des Maghrébins francophones et des Africains anglophones. Donc la communication est allée beaucoup plus facile parce qu'ils parlent anglais et français. Ici, la communication est beaucoup plus difficile. Hormis les Afghans et les Pakistanais qui parlent anglais et quelques pays qui parlent français, ici la communication c'est très difficile. Par exemple, dans les centres, vous avez constaté que c'était très difficile à communiquer. Au début, c'était facile parce qu'il y avait 10% de la population qui parlait anglais et qu'il y avait à peu près 5% qui parlait turc. Moi, mes grands-parents viennent de l'Asie mineure, donc j'ai appris cette langue. Ça m'a beaucoup aidé à parler avec cette communauté, de m'intégrer, tout ça. Donc, bref, nous avons 60 000. En Italie, ce sont 71 000 officiellement, un peu plus. En Italie, les conditions sont différentes. Là, la gestion est différente. J'ai l'impression qu'en Italie, c'est la coopérative, ce sont des mafiosi, des mafias. Ce n'est pas seulement les réfugiés. C'est aussi ce qui concerne tout la partie municipalité qui est avec les ordures, tout ça, en fait, la gestion
des ordures, des déchetteries, des ordures ménagères,
voilà,
etc.
Tout ça, c'est la mafia.
Moi, j'ai l'impression en Sicile aussi qu'il y avait aussi une mafia autour du travail agricole.
Là aussi, on nous a parlé de ça, parce qu'il paraît que des réfugiés quittent leur centre pour travailler du matin au soir à 15 euros. Travail noir. Donc bref, donc la population, les réfugiés, ils sont différents de ce qu'il y a en Italie. La gestion est différente. Ici en Grèce, une grande partie de la population, des problèmes est géré par des multinationales. En Italie, c'est par les Italiens eux-mêmes, mais je pense avec l'implication de la mafia, c'est visible. Par exemple, c'est lui qui nous expliquait, l'Italien était typiquement mafieux, et nous avions des Anglais qui posaient des questions, un Italien qui travaille en Angleterre qui faisait la traduction. Moi, je comprends tout à fait l'italien, surtout en région du français. J'ai fait quelques cours lorsque j'étais jeune. Et avant de poser la question, répondait tout de suite la même chose. C'était choqué. C'est pour que le slogan, après cela, on disait tous « absolument », c'est « absolument ». Avant de poser la question, ils disaient « absolument ». Oh, c'est mieux, ils disent « absolument ». Absolument. Donc, ici, les gros problèmes sont dès actuellement. Les îles, je ne connais pas, je n'ai jamais été, mais je ne voulais pas y aller, mais je n'ai pas trouvé l'occasion. Il paraît que les conditions sont très difficiles. Ça a posé beaucoup de problèmes avec les sociétés locales. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais quand même, les problèmes existent parce que leur nombre est grand, les réfugiés. Il paraît que les conditions ne sont pas les meilleures. Je ne connais pas, mais en lisant les journaux. Et le deuxième problème que je connais beaucoup mieux, c'est leur scolarisation. Là, on a beaucoup fait, surtout grâce au secrétaire général du ministère de l'Éducation qui a décédé il y a quelques jours. Sur son travail, en fait, il y a une crise cardiaque. Lorsqu'il avait une rencontre, il était très... Il est allé à l'hôpital directement et puis il est parti. Grâce à lui, il est mort récemment. On est allé à Zakynthos récemment. On a passé par Kéline. J'ai pensé à vous. Hein. Mais ça fait 3 jours, 4 jours.
J'ai pas suivi les...
Il était très sympa, qui vient de Zakynthos, qui était prof à Thessalonique, à l'université. Donc, la scolarisation, récemment, il y a 2 jours dans le journal grec, il y avait l'interview de son successeur, qui a dit que nous avions affaire à 7 000 jeunes réfugiés, en fait, de 6, plutôt de 4 à 15 ans. Et on essaie, en fait, de les mettre à l'école. Ça va venir pour les 15 000. Il reste encore 2 000 à pouvoir gérer. Par exemple, l'école dans votre quartier a commencé il y a quelques jours. Hein.
L'après-midi.
Et ils iront, l'année passée, ils fréquentaient l'école d'un village à Yosgiorgios. Cette année, ils vont partager en 2 écoles à Lechena. Ils iront à l'école de Lechena. Et à l'intérieur.
Ils sont avec les enfants grecs ou à part ?
En fait, il y a un système mixte. L'année passée était à part. Cette année, le système est mixte. Par exemple, nous avons une zone matinale qui sont à part. et ensuite pendant un petit temps ils sont avec les Grecs, et ensuite ils peuvent rester de l'après-midi pour qu'ils améliorent les Grecs. Là c'est le système. Et puis dans en médecine, mais pas partout, parce que c'est une question de culture, nous avons aussi une maternelle. Je me souviens très bien de la maternelle parce que j'ai beaucoup couru au ministère et là-bas. J'avais même des réactions de la part du centre parce qu'ils me disaient qui est toi, etc. Bon, je disais
rien. On parle de Yorgos, le charmant Yorgos. Il est complexé, ce mec.
C'est pas un complexé, c'est plus compliqué que ça.
Oui, il est épuisé. Non, non, il n'est pas seulement épuisé, il est dangereux.
Non, non, c'est pas.
Il est dangereux.
Au ministère, ils ont beaucoup de difficultés à communiquer parce qu'il y a des choses. Au début, j'étais bien reçu parce que j'avais toujours mon dîme des étudiants. Petit à petit, en fait, il y a ce qu'on appelle des volontaires. Je dis ce qu'on appelle des volontaires parce qu'il y avait des volontaires, vraiment des volontaires, qui ont fait un très bon travail, mais d'autres qui font des vacances. Par exemple, pendant l'été, ils étaient 60 volontaires pour une population de 150. Parmi ces 60, 30 sont venus pour faire du tourisme. Il y avait 15 qui étaient très stricts, qui travaillaient, de vrais volontaires, et puis les autres. Et la dernière fois, lorsque je suis venu les voir, il y avait les groupes de Français qui travaillaient beaucoup. Et j'entre pour saluer le groupe de Français que je connaissais parce qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés il y a quelques jours. Et je tombe sur un type qui vient de l'Afrique du Sud, complètement ivre, qui me dit oh, en anglais, qui es-toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Il sentait l'alcool en fait à 40 mètres.
Je dis, c'est un Français?
Non, anglais.
Un
Africain, en fait, un anglais sud-africain, en fait, un anglais. Je lui ai répondu tout de suite, je suis quelqu'un d'ici, en fait, en rigolant. Je l'ai poussé un peu dur parce que c'est impossible de supporter son haleine. Et puis, je commençais à parler avec les Français. Lorsqu'il a vu qu'ils ont communiqué en français, il est parti tout de suite parce qu'il a compris qu'il y a...
Il n'y avait pas de contrôle.
C'est le bordel absolu, excusez-moi.
Explique-toi.
Je trouve que c'est un élément extrêmement important, cette affaire de la scolarisation des enfants. Parce que c'est... Enfin, on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve à ces enfants-là, c'est de bon rester, aller ailleurs en Europe pour rentrer chez eux. Mais effectivement, ça reste des enfants, donc on leur doit l'école.
Oui, bien sûr.
C'est pas une question, c'est une obligation de tous les pays, d'après les Nations Unies. C'est une obligation stricte, nette, propre. Si tous les États sont obligés de scolariser, en fait, de veiller à la scolarisation des enfants. C'est sur la charte des Nations Unies.
Mais c'est pire que ça. En France, par exemple, la scolarisation est obligatoire de 6 à 16 ans.
Ici aussi.
Et elle est obligatoire, quel que soit le statut des enfants. Or, on a un gros problème avec les enfants sans papier, dont le ministère de l'Intérieur souhaiterait que l'école soit l'endroit où on pourrait les trouver pour les expulser.
Ah ouais.
Et c'est pour ça qu'on a le réseau Éducation sans frontières, pour protéger ces enfants sans papier. Et on a demandé, sous Sarkozy, demander aux directeurs des écoles de dénoncer les enfants sans papier. Et c'est une injonction contradictoire majeure, puisque comme fonctionnaire, tu dois les scolariser. Et c'est une chose terrible pour l'école, quoi, de pouvoir être un endroit où on trouve les
enfants. Dans ce cas, il y a aussi un élément qui a joué un grand rôle. C'était aussi l'intervention des partis politiques comme l'Op Doré qui ont trouvé du terrain sur, si tu veux, la peur des Grecs ou du peuple en général et qui se sont basés sur la scolarisation des jeunes et qui allaient être mixtes avec leurs enfants en disant que pourquoi mettre vos enfants avec eux qui sont malades, on ne sait pas s'ils sont vaccinés. Voilà. Du coup, ils ont vraiment augmenté cette émotion raciste. Et de façon à ce que leur pourcentage soit plus élevé. Et pendant les élections, qui gagnent plus de terrain. En plus, une autre chose, c'est aussi la volonté des jeunes, parce que je comprends que quand il s'agit d'un enfant de 5-6 ans, il n'a pas vraiment une opinion qu'on précise sur la scolarisation, mais ses parents qui savent, ou les personnes qui sont chargées, parce que c'est pas toujours avec ses parents, ils sont dispatchés dans l'Europe, Alors, les personnes qui sont chargées de ces enfants disent non, on ne peut pas rester en Grèce. Pourquoi on est obligé de suivre, par exemple, ce système d'éducation Et du coup, ils n'acceptent pas que les enfants aillent à l'école. Parce qu'ils disent, nous, si vous voulez nous aider, nous, on veut des cours d'allemand, par exemple, parce qu'on veut aller en Allemagne, vivre en Allemagne. Du coup, ce système, ça nous va pas. On veut pas apprendre votre langue parce qu'on veut pas vivre ici.
Changer un tout petit peu parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait en 2015, les Allemands ont reçu à peu près 1 million de réfugiés. Ça a eu deux effets. La première, en fait, c'est que tous les réfugiés, en fait, surtout les Arabes, vous savez, ils sont, c'est pas comme en France, vous connaissez très bien d'ailleurs tous, ils ont des familles assez larges, plusieurs enfants, etc. Donc, la première chose, qu'ils ont laissé derrière des enfants, familles, femmes, etc. Donc, leur famille, après cela, ils voulaient aller en Allemagne. S'ils allaient tous en Allemagne, 1 million deviendrait 3-4 millions. Pour les Allemands, c'est terrible. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup qui n'avaient pas de rapport avec tout ça, ils ont vu que leurs voisins partaient, donc ils voulaient les suivre. Et maintenant, nous avons en Grèce ce problème. Les gens qui avaient des parents, des familles en Allemagne, sont presque partis. Les autres, qui n'avaient rien, doivent forcément, ils ont deux solutions. Soit de rentrer chez eux, soit de rester en Grèce. Il y a aussi une petite possibilité d'aller ailleurs, pas en Allemagne, par exemple, France, Portugal, en Espagne, n'importe où. Elle a tout à fait raison. C'était la première réaction. Maintenant, les uns sont partis, les autres ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, maintenant, cette année, ils vont plus à l'école. Initialement, les réfugiés en disant ça m'intéresse pas.
Intégrer le fait que peut-être qu'il va falloir rester. En tout cas, rester un bon moment.
J'ai une dernière information que je voulais partager avant que vous on est parti. C'est quand j'étais à Bordeaux. Il y avait une intervention, la dame s'appelle Cécilia, elle est allemande, et elle est avocate, mais elle travaille dans une association de protection des enfants, des droits des enfants, qui s'appelle, financée par l'Église, mais qui n'a rien à voir avec la religion. Du coup, peu importe l'origine, la religion de chacun, ils protègent les enfants. Et elle nous a donné une information qui m'a personnellement choquée. C'était que, à l'époque, quand on faisait les cartes d'identité, on mettait les empreintes. Il y avait les empreintes de chacun.
Les empreintes.
Merci. Et du coup, avec ça, ils ont créé une base. Et comme ça, potentiellement, on est tous des réfugiés. Du coup, au cas où il y a une guerre et on doit aller ailleurs comme des réfugiés, on est dispatché selon cette base. Peu importe si on fait partie de la même famille, on veut être avec nos enfants mineurs. Nos enfants peuvent être, par exemple, dans la catégorie Allemagne. Et nous, on peut être en Albanie, en Bulgarie, en Turquie, peu importe. Et ça, c'était une information assez importante parce qu'il y a des années où ils ont créé cette base en ayant dans la tête, au cas où les pays sont des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait? On les dispatche, peu importe si on le demande, leur opinion.
Merci beaucoup. Merci. Je dois vous laisser.
Merci.
Et
c'est
un plaisir. Vous avez mes coordonnées si vous voulez.
Je vais les donner même à toute l'équipe. Et à
si vous mettez sur Google mon nom, Padelis Kyprianos, il y a les emails de l'université. Donc n'hésitez pas si vous voulez quelque chose.
Merci.
Okay.
Merci
beaucoup.
Je suis en contact avec d'autres groupes comme ça.
Merci.
Bon, au revoir, enchanté. Bon séjour.
Merci.
Je
te
remercie.
Enchanté.
Merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette information?
C'était très...